Bonjour.
Bonjour.
Oui, ça va. Deux mots d'abord, si vous voulez bien, à propos de l'évaluation qui a été faite un peu de tous les séminaires et les cours des étudiants réguliers et des étudiants libres ont répondu aux questionnaires qui leur avaient été proposés. Généralement, les étudiants sont contents du cours. Les prophètes sont présentés de façon animée, intégrant des développements didactiques et la parole de Dieu. Largement dans une lecture vivante et vécue des passages clés. Donc, chacun est vu dans sa spécificité. C'est ce que j'essaie de vous présenter, c'est-à-dire une figure de prophète. Quand je dis une figure de prophète, c'est parce que ce que nous avons, ce sont des livres et des écrits, et que ces livres et ces écrits n'ont pas été rédigés par les prophètes eux-mêmes. Et ce n'est que bien plus tard que la tradition a voulu reprendre, donc après l'exil, soit sous l'occupation perse, soit encore sous l'occupation grecque, parce qu'il y a encore des livres qui datent du deuxième siècle avant Jésus-Christ, et même peut-être du premier. Et donc, ces livres ont été constamment remaniés. C'est pour ça qu'il est très difficile de préciser des dates. On donne, bien sûr, le cadre dans lequel chaque prophète a parlé, surtout à partir de l'exil, avant, quand la menace se dessine, quand le territoire est envahi, d'abord le nord, la Samarie, puis les autres attendent Jérusalem, mais comme le slogan court, dirons comme ça, que Jérusalem est inviolable, puisque Dieu y réside, on ne se fait pas trop de soucis. Et on dit aux prophètes, causez toujours. Nous, on tient bon parce que Dieu se trouve à Jérusalem. Et alors, quand tout cela disparaît, qu'il n'y a plus de roi, qu'il n'y a plus de territoire, qu'il n'y a plus de temple, alors on est mis vraiment dans la porie. On ne sait plus que faire. Il y a cependant encore des prophètes qui élèvent la voix, mais qui ne sont pas beaucoup écoutés. Nous avons vu Ézéchiel. Hein. Tu leur parleras, ils ne t'écouteront pas, car c'est une engeance de rebelles. Alors voilà, certains demandent que l'on fasse plus de rapports entre ce que je dis, qui est une présentation à partir de textes, au syllabus, et vous pouvez trouver dans le syllabus toutes les notations précises que vous désirez, quand il y en a, bien entendu. Voilà. Alors, on cite aussi que l'horaire du matin fait que des étudiants arrivent au compte-gouttes. Ça, c'est le lundi matin. Hein. Alors, on est content aussi sur la pertinence pastorale. Deux questions apparaissent. Existe-t-il un CD à écouter? Là, Anne est en train de le mettre en musique, si je puis dire.
En fait,
il
faut savoir si on fait un CD ou si on met sur le site.
C'est sur le site et ça sera...
Audible
après la fin du semestre, en tout cas. Alors, il y en a qui demandent si aussi on pourrait envisager une table ronde des étudiants libres pour échanger sur les découvertes ou questions avec un accompagnement éventuel. Moi, je veux bien, s'il y en a qui sont amateurs, qu'ils me mettent un billet dans mon casier, je verrai s'il y a moyen... d'ici la mi-juin, de faire une réunion de ce type, s'il y en a qui sont intéressés. Au fur et à mesure des demandes, je vous avertirai, en tout cas avant la fin du cours. Moi, je veux bien que l'on pose des questions, mais pour cela, il faut en avoir. Et si vous voulez des réponses, alors vous pourrez attendre encore quelques années. Parce qu'une question suscite toujours d'autres questions. Et les questions sont beaucoup plus importantes que les réponses. Parce que la réponse relance vers une question qui va plus loin. C'est comme ça dans la science. Et comme nous avançons toujours dans la connaissance, dans une meilleure connaissance des réalités, il n'y aura jamais de fin. Je voudrais encore prendre maintenant quelques prophètes. Dans l'espace qui nous reste encore, nous avons quelques petits prophètes, comme on les appelle, quelques petits prophètes d'après l'exil. Nous avons vu un peu comment ça s'est passé. Il y a cependant un prophète sur lequel j'aimerais quand même revenir quelque peu parce que son nom intervient dans le Nouveau Testament à des moments un peu particuliers. Je ne sais pas si je l'avais mis, mais il a sauté, je crois. Ah oui. C'est un prophète qu'on ne sait pas non plus très bien daté. C'est le prophète Habakkuk. On ne sait pas très bien non plus ce que son nom signifie. La racine hébraïque, Bakak, signifie piller, dévaster. Mais Habakkuk, c'est, si vous voulez, celui qui est dévasté, ou la dévastation, mais c'est aussi une plante médicinale, une sorte de menthe. Et certains penchent plutôt pour cette étymologie-là. Mais c'est intéressant dans la tradition juive actuelle, la tradition israélienne en tout cas, quand un conteur, il y a beaucoup de gens qui racontent des histoires, des paraboles, toutes sortes d'histoires significatives. Quand un conteur israélien commence par « Mon oncle Habakkuk », on sait bien qu'il va y avoir une histoire drôle. Parce que Habakkuk, c'est le prophète de l'inattendu. Il parle, mais on dirait qu'il ne sait pas très bien ce qui arrive. Et dans son livre, vous avez un petit livre, ce sont quelques chapitres, simplement un dialogue avec Dieu. Et c'est intéressant justement pour nous, pour voir, tiens, qu'est-ce que ça signifie? Comment peut-on parler à Dieu? C'est un genre très proche des psaumes. Les psaumes viennent aussi en grande partie de cette époque-là. Et les psaumes, comme les prophètes, ont été rédigés dans leur rédaction définitive après l'exil, bien entendu. Et donc, c'est le prophète fait les questions et les réponses. Je vous lis simplement quelques passages dans une traduction qui est la traduction généralement de la liturgie. Combien de temps, Seigneur, vais-je t'appeler au secours? Et tu n'entends pas. Crier contre la violence, et tu ne délivres pas. Pourquoi m'obliges-tu à voir l'abomination, et restes-tu là à regarder notre misère? Devant moi, pillage et violence, dispute et discorde se déchaînent. Question qui est souvent posée. Et Dieu dans tout ça? Voici comment Dieu répond. Me voici, je fais surgir les Chaldéens. Les Chaldéens, c'est les Babyloniens. Les Assyriens ont décliné, les Babyloniens ont repris le pouvoir, ont pris le pouvoir. Me voici. Je fais surgir les Chaldéens. Voilà, je fais surgir ce qui va vous dévaster. C'est curieux, hein. Ce peuple impitoyable et impétueux. Il est épouvantable et terrible. C'est lui-même qui fonde son droit et sa suprématie. Ses cavaliers viennent de loin. Ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout à la violence, le voilà qui vient. Le visage tendu vers l'avant, il a entassé des captifs comme du sable. C'est lui qui se moque des rois. Les princes sont un jouet pour lui. On se demande, Seigneur, hein, combien de temps ça va durer? Et le Seigneur répond, je continue avec les malheurs. Parce que, comme nous l'avons vu souvent, hein, la Bible met au compte de Dieu, attribue à Dieu, en quelque sorte, aussi bien le bonheur que le malheur des hommes. Et cela veut dire, mais Dieu est au-dessus de tout ça, il transcende tout cela. Il est présent aussi, mais tout dépend finalement de lui et de sa création. Puis, ça reprend, on peut comprendre. Depuis les temps anciens, c'est toujours le chapitre 1er, mais le verset 12. Depuis les temps anciens, n'es-tu pas le Seigneur, mon Dieu saint, toi qui es immortel? Tu as désigné les Chaldéens, Seigneur, pour exécuter le jugement. Tu en as fait un roc pour exercer le châtiment. Tes yeux sont trop purs pour voir faire le mal. Tu ne peux supporter la vue de l'oppression. Alors, pourquoi regardes-tu ces perfides? Pourquoi restes-tu silencieux quand le méchant engloutit l'homme juste? Tu as fait l'homme comme les poissons de la mer et comme les reptiles que personne ne domine. Pourtant, le Chaldéen pêche les uns et les autres avec son hameçon, les prend avec son épervier et les recueille dans ses filets. Tu as tout créé, et cependant, les hommes que tu as créés font le mal. Gros problème. Ce qui le remplit de joie et d'allégresse. Et donc les plus forts triomphent. Alors il offre des sacrifices à son épervier, il fait fumer de l'encens devant ses filets, car il leur doit une prise abondante et une nourriture copieuse. Voilà, ça c'est hein, toujours l'idolâtrie. On idolâtre ses propres réalités. C'est ainsi qu'il vit de son épervier, hein, l'épervier c'est le grand filet qui ramasse tout, en massacrant des peuples sans pitié. Je veux me tenir à mon poste de garde, rester debout sur mon rempart, c'est de nouveau la sentinelle, hein, comme chez Ézéchiel, guetter ce que Dieu me dira et comment il répliquera à mes plaintes. Donc on se plaint. Deuxième réponse de Dieu, au chapitre 2. Alors le Seigneur me répondit, « Tu vas mettre par écrit la vision, bien clairement, sur des tablettes, pour qu'on puisse la lire couramment. Cette vision se réalisera, mais seulement au temps fixé. Pourquoi veux-tu vivre selon le temps de la montre, alors que Dieu vit sur un autre temps ?» Cette vision se réalisera, mais seulement au temps fixé. Elle tend vers son accomplissement, elle ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends là. Elle viendra, certainement, à son heure. Celui qui est insolent n'a pas l'âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité. Ceux qui ont fait le séminaire de l'Épître aux Romains savent l'importance de ce verset, qui est mis en exergue de cet épître aux Romains. Le juste vivra par sa fidélité. La vie est dans la fidélité à nous-mêmes, donc à Dieu, à ce qui est, au réel. Et alors vous avez ce beau cantique de Habacuc, que je reprends aussi parce qu'il vient une fois au moins par mois dans l'office. Seigneur, j'ai entendu parler de toi, Devant ton œuvre, Seigneur, j'ai craint. Dans le cours des années, fais-la revivre. Dans le cours des années, fais-la connaître. Quand tu frémis de colère, souviens-toi d'avoir pitié. Dieu vient de Théman, et le Saint du mont de Paran. Sa majesté couvre les cieux, sa gloire emplit la terre. Théman et Paran, hein, ce sont les régions du désert, d'où vient évidemment Israël. Israël, dans sa fuite d'Égypte, hein, qui traverse le désert pour aller en terre promise. Mais Dieu accompagne le peuple. Son éclat est pareil à la lumière, deux rayons sortent de ses mains, là se tient cachée sa puissance. Vous voyez des reproductions déjà égyptiennes avec des mains, hein, d'où sortent des rayons. Hein, la puissance du pharaon est telle que, hein, il n'a qu'à étendre la main et on lui obéit. Tu es sorti pour sauver ton peuple, pour sauver ton Messie. Le Messie, c'est le roi, évidemment. Hein. Tu as foulé de tes chevaux la mer et le remous des eaux profondes, hein, image du passage de la mer des roseaux. J'ai entendu et mes entrailles ont frémi, à cette voix mes lèvres tremblent. La carie pénètre mes os, et moi je frémis d'être là, d'attendre en silence le jour d'angoisse. Hein, c'est la menace, hein, de la prise d'abord de Samarie, puis de Jérusalem. Ce jour d'angoisse qui se lèvera sur le peuple dressé contre nous. Et alors deux images qui reviennent chez Jérémie, chez d'autres prophètes, mais surtout ici Habacuc, et puis que Jésus va reprendre au moment où il va entrer à Jérusalem, hein, cet épisode du figuier desséché. Le figuier n'a pas fleuri, pas de récolte dans les vignes. Le fruit de l'olivier a déçu. Il n'y a plus rien qui marche. Dans les champs, plus de nourriture. Ah, voilà. L'ère de la restriction est venue. L'enclos s'est vidé de ses brebis et l'étable de son bercail. De son bétail, pardon. Et l'étable de son bétail. Non, il n'y a plus rien. Crise monétaire, crise de l'emploi. Et moi, je bondis de joie dans le Seigneur. J'exulte en Dieu, mon Sauveur. Le Seigneur, mon Dieu, est ma force. Il me donne l'agilité du chamois. Il me fait marcher dans les hauteurs. Devant cette réalité pénible que nous avons tous à vivre, je découvre la joie profonde, cette joie qui me détache de toutes mes idoles, et qui me fait découvrir une réalité beaucoup plus profonde que cette réalité matérielle qui est nécessaire, bien entendu. Mais il y a une réalité, c'est cette présence de Dieu qui n'est pas dans un temple à Jérusalem, mais cette présence de Dieu qui est en tout homme. Et donc vous verrez, j'ai pris Habacuc parce qu'il le dit de façon assez claire, dans l'inattendu, je découvre un autre registre de ma vie, un registre plus profond, celui où Dieu est Dieu et où je suis moi. Sinon, je ne suis pas vraiment libre. Et alors, quand on se trouve non plus devant une menace, mais une désolation, quand effectivement Nabucodonosor a détruit Jérusalem et envoyé par deux fois des gens, surtout les responsables, ceux qui pourraient devenir des leaders, et les métallurgistes, ceux qui pourraient faire des armes, quand on n'a plus rien, comment va-t-on encore retrouver cette présence de Dieu alors qu'on est en dehors de sa terre? Et toutes les promesses aux patriarches, les promesses touchaient la terre, cette fameuse terre promise. Mais qu'est-ce que c'est qu'une terre promise? Une terre promise, c'est une terre qui reste promise. C'est-à-dire qu'elle est toujours plus que ce que nous possédons. Elle est toujours autre chose. La terre est beaucoup plus que simplement la terre que nous faisons produire, et nous avons raison. Mais de quelle manière la faisons-nous produire? Est-ce de manière naturelle ou artificielle? Est-ce pour faire vivre les gens ou pour vivre soi-même et en tirer du profit? Ce sont toutes ces questions qui se sont posées, surtout pendant l'exil, mais à la fin de l'exil. Est-ce qu'on va reconstruire et redevenir comme avant? On va récupérer sa terre, on va rétablir, on va la faire produire à nouveau, bien sûr, on va rétablir les villes qui ont été détruites, on va rétablir le sanctuaire, et Dieu maintenant deviendra Dieu chez lui. Et nous serons chez lui, et tout ira bien. Ça, c'est pas l'espérance. C'est de ça ira mieux demain. Mais c'est l'illusion. Ben non, ça n'ira pas mieux demain. Tant que l'homme restera l'homme, la violence existera. Le profit existera. Donc, qu'est-ce qu'il faut changer? Ben, l'homme. L'homme. Lui faire découvrir qu'il est une présence de Dieu et qu'il a une responsabilité à vivre. Alors, cette responsabilité, reconstruire la terre, comme après la dernière guerre, on n'a rien eu de plus pressé que de reconstruire toutes les maisons qui avaient été détruites. Et c'est ce qu'on fait chaque fois. Après un tsunami, on fait pareil. Il faut reconstruire. Mais c'est difficile de reconstruire. On a mis souvent des années, pour construire sa petite maison, entretenir son petit jardin, et quand tout est détruit, qu'est-ce qui reste? Et 2 ou 3 ans après, regardez Haïti, par exemple, il y a encore beaucoup de ruines. Alors, qu'est-ce qu'il faut découvrir? Mais que ces ruines sont vivantes. Et c'est la même chose pour la vie humaine. Chaque vie humaine décline. À partir d'un certain moment, on perd ses repères, on perd ce qu'on avait, ses forces, son acuité de vision, d'audition, etc. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Se lamenter? Ben non! Se réjouir, et moi je bondis de joie dans le Seigneur. Alors vous avez par exemple monsieur âgé, Haggai il s'appelle le monsieur. Haggai, ça vient du mot chag, qui veut dire, chagag veut dire festoyer, faire la fête. Haggai, c'est le festif, page 106 dans le syllabus. Ce monsieur Haggai, c'est justement quelqu'un qui a trouvé que les ruines, c'était pas très beau, que les ruines du temple, fallait peut-être bien, même s'il y avait eu des herbes qui s'étaient glissées entre les ruines, il fallait quand même peut-être reconstruire quelque chose. Mais attention, reconstruire le temple, ça veut dire quoi? Si ça veut dire faire une belle maison, construire une belle église, exactement comme il faut aujourd'hui, et puis, si ce n'est que ça, ça ne compte pour rien. Il faut que la véritable église, le véritable temple, c'est-à-dire les hommes, soient vraiment restaurés et viennent vraiment faire des sacrifices justes. Attention, parce que tout ça va revenir chez les prophètes d'après l'exil. Des sacrifices convenables, équitables, vrais. Et le sacrifice vrai, ce ne sont pas les bêtes que nous menons, mais le sacrifice vrai, c'est ce que les hommes vivent. Et c'est leur attitude profonde, leur relation avec Dieu, avec leurs frères. Alors, monsieur Haggai, va être un des 2 grands prophètes de la restauration, du temple d'abord. Il faudra restaurer le temple Et puis, il faudra restaurer les remparts de la ville. Nous verrons ce que ça veut dire aussi. Mais donc, il faut restaurer l'intérieur, ce qui fait vivre la cité, c'est-à-dire la présence de Dieu lui-même. Et pour Agée et Zacharie, c'est le deuxième. Mais Zacharie, c'est encore un autre problème, nous verrons un peu après. Zacharia, Dieu s'est souvenu. Il s'est souvenu de quoi? Il s'est souvenu de l'homme. Et où est ce souvenir de l'homme? Ben, il est dans le souvenir que les hommes portent de Dieu. Le souvenir de Dieu est dans le souvenir de l'homme. La foi étant toujours un engagement vis-à-vis de quelqu'un qui s'engage vis-à-vis de moi. Une confiance. Cinq oracles dans ce petit livre d'Agée. Je prends un texte qui est un peu plus lisible. Non, ça c'est un peu... Ah voilà. Donc réflexion sur la reconstruction et donc sur le bilan de l'exil. Pourquoi a-t-on perdu tout ce que le Seigneur nous avait donné? Mais parce que les dons du Seigneur, d'abord, ne sont pas le Seigneur lui-même. Et donc, servir ou adorer les dons, ce n'est pas encore adorer Dieu. Il faut voir à travers ces idoles avec lesquelles nous vivons, il faut voir la réalité qui se cache à l'intérieur. Voici comment commence le livre d'Agée. La deuxième année du règne de Darius, ah oui, nous sommes déjà maintenant sous l'époque perse. Le premier jour du sixième mois, la parole du Seigneur fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agée à Zorobabel. Zorobabel, gouverneur de Juda, c'est un Davidide, c'est-à-dire c'est un descendant de David. Donc quelqu'un qui peut porter l'espérance du peuple. Et à Josué, le grand prêtre. Donc quelqu'un de lignée royale et quelqu'un de lignée sacerdotale. Et nous retrouvons justement le roi, celui qui est à la tête du gouvernement, le roi, et le prêtre. Deux instances qui sont toujours difficiles à vivre, et c'est pourquoi le prophète est toujours présent à côté du roi et à côté du prêtre pour les remettre sur la voie droite. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Ah oui, le Seigneur de l'univers. On devient plus ouvert aussi à la réalité que l'on vit, que le monde vit. Plus seulement notre petit territoire, mais on a été parmi les nations, on a commencé ce qu'on appelle la diaspora, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas revenus sur leur territoire, qui sont restés en exil. Et qui, en exil, vivent aussi de la présence du Seigneur. Pourtant, ils sont loin de Jérusalem. Mais c'est le Seigneur qui a été les rejoindre. La gloire de Dieu, nous l'avons vu avec Ézéchiel, qui est allé les rejoindre à Ninive ou à Babylone. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Ces gens-là disent, le temps n'est pas encore venu de rebâtir la maison du Seigneur. Il attendra le Seigneur, d'abord nous. Or, voilà ce que dit le Seigneur. Et pour vous, est-ce bien le temps d'être installé dans vos maisons luxueuses, alors que ma maison est en ruine? Et maintenant, ainsi parle le Seigneur de l'univers, réfléchissez à vous, à votre situation. Vous avez semé beaucoup, mais peu récolté. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez, mais sans être désaltéré. Vous vous habillez, mais sans avoir chaud. Et l'ouvrier qui a gagné son salaire n'a pour le maître qu'une bourse trouée. C'est-à-dire que tout ne va pas comme on l'aurait désiré. On avait idéalisé l'après, mais ça n'ira pas mieux. Ça n'ira pas mieux avec un autre gouvernement. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Réfléchissez à ce que vous devez faire. Ah. Allez dans la montagne, rapportez du bois pour rebâtir la maison de Dieu. Je prendrai plaisir à y demeurer et j'y serai glorifié, parole du Seigneur. Donc on va d'abord aller chercher du bois, aller chercher des matériaux. Il faut ça décarcasser pour construire. Et justement, en reconstruisant, on découvrira ce pourquoi on construit. Il faut réfléchir quand on construit. Pas seulement réfléchir aux matériaux et à la disposition des lieux, mais il faut réfléchir au pourquoi je reconstruis. Est-ce que je reconstruis pour gagner ma vie? Ça vaut la peine. Est-ce que je reconstruis par solidarité avec mes frères pour retrouver cette solidarité dans le travail commun? C'est bien aussi. Est-ce que je bâtis une cathédrale? Et la cathédrale, c'est quoi? C'est la flèche que je vais construire, ou bien le sens avec lequel je vais la construire. Nous avons toujours cette tendance à idolâtrer. Et c'est la grosse difficulté sur laquelle les prophètes d'après l'exil vont constamment revenir. La deuxième année, je suis à la fin du chapitre premier et au deuxième chapitre. La deuxième année du règne de Darius, le 21e jour du 7e mois, la parole du Seigneur se fit entendre par l'intermédiaire du prophète Agé. Donc on a mis un chapeau à tous les oracles. Va parler à Zorobabel, gouverneur de Juda, à Josué le grand prêtre et au reste du peuple. Tu leur diras, reste-t-il encore parmi vous quelqu'un qui ait vu ce temple dans sa splendeur première? Un d'avant l'exil. Est-ce que vous vous rappelez comment c'était? Avez-vous des photographies à sortir? Eh bien, qu'est-ce que vous voyez maintenant? N'est-il pas devant vous, réduit à rien? C'est plus rien du tout, Ce n'est plus à la splendeur d'autrefois. On a fait un petit temple, on a fait ce qu'on pouvait avec les matériaux. Mais à présent, courage, Zorobabel, courage, Josué, grand prêtre, courage, tout le peuple du pays, au travail. Je suis avec vous, déclare le Seigneur de l'univers. Selon l'engagement que j'ai pris envers vous, à votre sortie d'Égypte, déclare le Seigneur de l'univers, mon esprit se tient au milieu de vous, ne craignez pas. Je signale toujours le Seigneur de l'univers. Et plus seulement le Dieu des Pères, le Dieu d'Israël, mais c'est le Seigneur de l'univers. On pense maintenant création. On ne pense plus mon pays. Encore un peu de temps et je vais ébranler le ciel et la terre, la mer et les continents. Je vais mettre en branle toutes les nations païennes. Leurs trésors afflueront ici et j'emplirai ce temple. Il faudra aller chercher des matériaux ailleurs et on va faire du commerce. Mais ce commerce est une chose utile parce qu'elle va mettre des relations entre le peuple et ses voisins. Et le commerce vaut beaucoup mieux que la guerre. De splendeur, j'emplirai ce temple de splendeur, déclare le Seigneur de l'univers. L'argent est à moi, l'or est à moi. La splendeur future de ce temple surpassera la première, et dans ce lieu je vous ferai don de la paix, parole du Seigneur de l'univers. Donc on commence par construire un petit temple avec tout ce qu'on peut trouver dans les ruines. Mais on va reconstruire un temple, mais il faudra des années pour cela, un grand temple. Et c'est ce qu'on va appeler le second temple. Et ce second temple, à l'époque de Jésus, n'était pas encore achevé, puisque Hérode entreprend justement de finir la construction du temple. C'est-à-dire de peaufiner, de faire une grande esplanade, de combler, de l'agrandir, tel qu'il était à l'époque de Jésus. Donc voilà, au fond, ce message important. Reconstruire le temple, remettre Dieu en présent dans son temple, ça veut dire quelque chose dans notre engagement vis-à-vis de cela. Il y a à faire quelque chose, à devenir temple en quelque sorte. Alors nous avons un autre prophète, mais qui est souvent couplé avec Agée. Nous sommes dans les années 520, hein, reconstruction du temple 520, dédicace de ce temple 515, voyez, 5 ans, déjà un certain temps avant que ça ne soit fini, mais on y travaille toujours. Puis Zacharie, et ici dans la revue Biblia, on titrait à propos de Agée, « Agée encourage les bâtisseurs du temple », c'est ce que nous venons de voir. Et puis, « Zacharie, restaurateur de l'Alliance ». Pas seulement reconstruire un temple, pas seulement construire des églises, mais les peupler de présence. Et la présence de Dieu, c'est la présence des personnes, puisque ce sont les personnes qui portent Dieu. Si j'insiste sur cela, c'est pour vous aider à percevoir qu'il y a une ouverture progressive vers ce que nous appelons aujourd'hui l'incarnation. L'incarnation, c'est un phénomène présent dans l'Ancien Testament. La parole de Dieu, le Verbe de Dieu, construit sa tente en Israël. Il est présent au milieu du peuple comme une parole vivante, donc comme une parole qui interpelle, et qui interpelle selon des orientations, des propos, des chapitres essentiels à la vie des hommes. C'est ça la Torah. La Torah, c'est un enseignement sans cesse repris à propos de ce qui se passe dans le monde, dans la société, pour la construire. Hein, je répète ce qui est important dans la tradition juive. Torah, Horat Israël. On joue sur la racine Yara qui signifie enseigner, jeter, hein, des flèches, tirer des flèches. La Torah, ce sont des flèches lancées. Ce sont des interpellations. La loi, ce que nous appelons la loi, ce n'est pas quelque chose à observer. La loi est un stimulant pour que la réflexion s'engage dans la réalité. Donc, nous parlons souvent, nous, de balises. C'est vrai que la Torah est une balise. Elle nous empêche d'aller trop loin ou de rester trop sur nous-mêmes. Mais la Torah, c'est la matrice d'Israël. Hein, Torah, Horat Israël, c'est ça que ça veut dire. La Torah, c'est l'interpellation profonde qui fait vivre Israël, qui le construit. Et cette Torah, justement, où la trouve-t-on ? Oui, dans le temple. Oui, mais attention, ce sont des tables de pierre seulement. Et ces tables de pierre doivent être écrites sur des tables de chair, c'est-à-dire sur le cœur des hommes. Nous avons vu ça avec Jérémie, hein, le chapitre 31. Eh bien, ce que Zacharie va prophétiser, c'est le réveil intérieur. Je suis à la page 107 du Syllabus. Le livre de Zacharie qui nous a été transmis sous le nom du prophète comprend deux parties bien distinctes. Une qui a été construite à peu près, qui a été rédigée à peu près à l'époque d'Agé, donc 520, à cette époque-là. Et une autre qui a été ajoutée beaucoup plus tard et qui s'inspire en quelque sorte du texte que nous avons vu la fois passée, hein, du deuxième Isaïe, la deuxième partie du livre d'Isaïe. On dit parfois second Isaïe, c'est une manière de parler, mais enfin ce sont des blocs quand même différents. Parce que nous allons trouver dans cette deuxième partie le sens de la reconstruction du temple. C'est une reconstruction intérieure, du temple intérieur que chacun est pour Dieu. Non plus une parole de Dieu comme cela donnée pour tout le peuple, mais une parole de Dieu qui doit être intériorisée dans la société, dans la communauté. On va commencer à appeler à ce moment-là, puisque le temple avait été détruit, des synagogai, des synagogues, c'est-à-dire des rassemblements du peuple. Le chapitre 1 à 8 peut être divisé en deux sections construites chacune à partir d'un récit. Et voilà où nous y sommes. Un appel à la repentance. Il commence par là, puis un dialogue, vous voyez, c'est une forme intéressante, on dialogue avec Dieu ou avec l'ange du Seigneur, et on a des visions. Et ce sont ces visions, comme Ézéchiel en avait beaucoup, hein, ces visions que l'on veut transmettre au peuple. Alors, prenons le livre de Zacharie. Voilà. Moi, Zacharie, je levai les yeux, et voici ce que j'ai vu. Un homme qui tenait à la main une chaîne d'arpenteur. Hein, on va mesurer le terrain. Quand on veut mesurer le terrain, ça veut dire qu'on veut construire une maison. Hein, une chaîne d'arpenteur. Je lui demandai, où vas-tu ? Il me répondit, je vais mesurer Jérusalem pour voir quelle est sa largeur et quelle est sa longueur. Vous voyez, ça nous pose la question, qu'est-ce que c'est que Jérusalem ? Est-ce que c'est la ville là ou est-ce que c'est la ville à l'intérieur ? L'ange qui me parlait était en train de sortir. Lorsqu'un autre ange sortit le rejoindre, nous découvrons déjà le langage de l'Apocalypse. Des anges. C'est quoi des anges ? Des anges, ce sont toujours des êtres créés qui mettent en rapport avec Dieu. Pour découvrir le sens des événements, il faut un ange. Parce que ces événements ont un sens caché. Et ça doit, il n'y a qu'un être divin qui peut le révéler. L'ange est précisément cette présence dans la relation personnelle entre Dieu et les individus, les hommes, les personnes et les sociétés. Il lui dit, cours, va dire à ce jeune homme, Jérusalem doit rester une ville ouverte à cause de la quantité d'hommes et de bétail qui la peupleront. Il ne faut pas vous fermer sur vous-même, ville ouverte. Quant à moi, je serai pour elle, déclare le Seigneur, une muraille de feu pour l'entourer, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Muraille de feu et gloire au milieu. C'est-à-dire une présence spirituelle. Chante et réjouis-toi, fille de Sion. Voici que je viens. J'habiterai au milieu de toi, déclare le Seigneur. En ce jour-là, des nations nombreuses s'attacheront au Seigneur. Elles seront pour moi un peuple et j'habiterai au milieu de toi. Des nations nombreuses. Donc voilà que Jérusalem devient attirante. Attirante pourquoi ? Parce que Dieu doit y vivre. Tu sauras que le Seigneur de l'univers m'a envoyé vers toi. Le Seigneur prendra possession de Juda, son domaine sur la terre sainte. Il choisira de nouveau Jérusalem, la ville que Dieu a choisie pour y faire habiter son nom. Hein, c'est l'expression qui revient toujours dans le Deutéronome. Car il se réveille et sort de sa demeure sainte. Il se réveille et sort de sa demeure sainte. Et au chapitre 8e, nous lisons ceci. La parole du Seigneur de l'univers me fut adressée. J'éprouve pour Sion un amour jaloux. J'ai pour elle une ardeur passionnée. Je suis revenu vers Sion. Et je fixerai ma demeure au milieu de Jérusalem. Jérusalem s'appellera ville fidèle, et la montagne du Seigneur de l'univers, montagne sainte. Les vieux et les vieilles reviendront s'asseoir sur les places de Jérusalem, le bâton à la main à cause de leur grand âge. Les places de la ville seront pleines de petits garçons et de petites filles qui viennent y jouer. Et sur tout cela paraît une merveille pour les survivants de ce temps-là. Est-ce que ce sera aussi une merveille pour moi ? C'est Dieu qui pose la question, déclare le Seigneur de l'univers. Est-ce que j'en ferai une habitation où le Seigneur sera bien. Voici que je sauve mon peuple en le ramenant des pays de l'Orient et du pays de l'Occident. Je les ferai venir pour qu'ils demeurent au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Vous voyez toujours cette expression de l'adoption. Adopter un enfant, ce qui est demandé à tous les pères, je suis ton fils, je suis ton père et tu es mon fils. Et Dieu adopte, mais il adopte Jérusalem, pas à l'exclusion des autres, mais pour montrer comment il inclut chacun. Il inclut chacun par un appel décisif. Et je serai leur Dieu dans la fidélité et dans la justice. Donc, je suis revenu vers Sion. Mais, au chapitre 8e, nous découvrons aussi au verset 20, « Ainsi parle le Seigneur de l'univers, voici que de nouveau des peuples afflueront, venus de la multitude des villes. » On va fêter la Pâque, on va fêter la Pentecôte à Jérusalem. Donc les peuples reviennent vers leur centre pour redécouvrir ce qu'ils sont. On se dira d'une ville à l'autre, allons implorer le Seigneur, allons chercher la face du Seigneur de l'univers. Moi, en tout cas, j'y vais. Des peuples nombreux et des nations puissantes viendront à Jérusalem. Donc Jérusalem deviendra attirante à cause de cette présence qui doit devenir de plus en plus intérieure au peuple, qu'il devienne en quelque sorte un exemple. Ce n'est pas un privilégié. Ce n'est pas quelqu'un qu'il faut adoré, non. C'est quelqu'un qui devient, parce qu'il est lui-même, un exemple de cette présence divine. Des peuples nombreux, des nations puissantes viendront à Jérusalem implorer le Seigneur de l'univers et chercher sa face. Ainsi parle le Seigneur de l'univers en ces jours-là. Il y aura pour un juif 10 hommes de toute langue et de toute nation. On sera envahi par des tas d'immigrants qui viendront, qui découvriront cette présence de Dieu. 10 hommes de toute langue et de toute nation, pour un juif, qui le saisiront par son vêtement et lui diront « Nous allons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » Apprendre aux gens que Dieu est avec nous. Voilà l'importance de la reconstruction du temple qui signifie aussi la reconstruction de la population autour de cette présence divine. Non pas revenir à l'ancien, mais découvrir que la vie est possible avec ceux qui croient et ceux qui ne croient pas encore ou qui croient différemment, mais qui ont à apprendre la foi au Seigneur. La foi vivante. Et voyez que ce texte, dans les commentaires que vous trouvez dans un Biblia qui continue toujours à faire ses commentaires, c'est précisément de montrer l'intériorisation progressive qui se fait de la religion. Que le rite n'a d'importance que s'il est vécu, et que le rite au temple et la vie quotidienne doivent vivre ensemble. La seconde partie du livre de Zacharie est très différente de la première. J'en parle un peu plus loin, à partir de la page 109 dans le syllabus. La deuxième partie contient 3 brèves collections d'oracles non datées, écrits cette fois-ci dans une perspective résolument eschatologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que l'eschatologie? C'est la parole sur la fin. Ce n'est pas pour vous dire ce qui va se passer à la fin, c'est pour vous montrer qu'il y a une finalité dans ce que nous vivons. Et il y a une certaine vision de la fin qui doit nous permettre, une vision que nous pourrions appeler une sorte de mythe de la fin, une image de la fin, qui doit motiver notre présent. C'est ça l'eschatologie. C'est pas vous dire ce qui va se passer, c'est pourquoi vivez-vous et est-ce que vous mettez dans votre vie le pourquoi vous vivez, votre finalité, dans quel but? Et c'est pourquoi ces chapitres qui ont été ajoutés après, mais qui viennent, on ne sait pas très bien où, mais qui ont été mises comme dans le livre d'Isaïe, qui ont été mises là par un génie, ceux qui ont fabriqué les livres des prophètes après l'exil sont vraiment des théologiens géniaux. Chapitre 9 à 11, on va vous montrer comment le peuple doit être renouvelé de l'intérieur. Il ne faut pas vivre sur le passé, il faut vivre sur ce qui vient, ce qui est en train de naître. Ephraïm et Juda, il ne reste plus que ça. Mais Ephraïm et Juda ont été et continuent à être renouvelés justement parce qu'ils ont souffert. Et la souffrance a appris quelque chose. La souffrance a appris que l'essentiel n'est pas dans le luxe, dans l'extérieur, dans le profit, que l'essentiel est dans l'intérieur de l'homme. à partir des exilés réunis et libres autour d'un Messie, d'un roi, d'un oint humble. Humble. Pas d'un roi puissant, dominateur. Un roi humble, pauvre, pacifique, qui va rassembler toutes les nations qui voudront bien vivre sur le même pied. Le Messie, chapitre 9, est un roi juste et humble. Exulte de toutes tes forces, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Et de nouveau, la ville est symbolisée par un personnage féminin, comme dans l'écriture de la sagesse. La sagesse est féminine. Voici ton roi qui vient vers toi. Il est juste et victorieux, humble, monté sur un âne tout jeune. Voilà des noces qui se préparent entre le roi humble et la fille de Sion, la fille qui est Sion. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm, hein, il restait Éphraïm et Juda, les chars de guerre, non-violence. Et de Jérusalem, les chevaux de combat. Hein, le cheval de combat, cheval de guerre, va être remplacé par l'âne. Humble. Il brisera l'arc de guerre. Il proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et de l'Euphrate à l'autre bout du pays. Et au chapitre 11, nous avons une allégorie. Allégorie du bon et du mauvais berger, que va reprendre Jésus, bien sûr. Le bon et le mauvais berger. Le berger peut être bon ou mauvais. C'est-à-dire que nous avons à opter aussi, à discerner de quel côté nous voulons vivre. Dans le profit ou dans le respect. Allégorie du bon et du mauvais berger, le premier est rejeté par son peuple et sa mort va opérer la purification du peuple. C'est une autre image du serviteur souffrant que nous trouvons en toutes lettres chez Zacharie. Donc c'est une image qui prend son temps de devenir réel, réel dans les hommes. C'est une attitude à prendre. Et alors les chapitres 12 à 14, qui sont appelés parfois Trito-Zacharie, la souffrance du bon berger est rédemptrice pour le peuple. Son sacrifice instaure une alliance nouvelle qui débouche sur un salut offert à tous. Donc chacun peut devenir ce serviteur. Et par la manière dont il va vivre sa souffrance, dont il va vivre la pénurie, dont il va vivre le respect et dans l'humilité, va devenir un témoignage. C'est ce qu'on va appeler dans notre langage chrétien un témoignage. Mais on ne vit pas pour témoigner, mais on témoigne parce qu'on vit. Et ça, c'est important. Le témoignage n'est pas un but. Le but n'est pas de devenir un exemple pour les autres. Le but est de vivre dans la paix et dans l'ouverture, dans l'accueil, ville ouverte, Jérusalem. Donc vous voyez que, à travers la réalité de l'exil, à travers ce qu'on a vécu dans la pénurie, en restant sur la terre sainte, mais qui n'était plus sainte puisqu'elle était piétinée par les ennemis, on a découvert la force de cette présence de Dieu dans l'homme. Et voyez comment petit à petit, et du côté de la sagesse, et du côté de l'interprétation de la Torah, et du côté des prophètes, on s'avance petit à petit vers une nouveauté que Jésus va amener en découvrant que chaque personne, chaque fils d'homme, chaque fille d'homme est fils et fille de Dieu. Et c'est cela qu'on va pouvoir découvrir. Mais sans cette période intermédiaire entre l'exil et l'an zéro, on ne pourrait pas comprendre le passage. Comment ce passage se fait progressivement à travers ce qu'on va appeler le peuple de la terre, c'est-à-dire le peuple qui vit dans cet esprit, et qui a découvert dans l'humilité la présence du Seigneur. Mais après l'exil. Bon, nous verrons la fois prochaine encore un ou deux exemples de prophètes de cette époque-là, avant de prendre un quatrième grand que nous n'avons pas encore pris, et qui est Daniel, et qui justement va faire la charnière entre l'un et l'autre testament.